avec les musiciens,
les cinéastes,
les écrivains,
les intellectuels,
en train d'inventer l'Afrique du 21e siècle.
On y va.
Dès jeudi, France Inter, en direct et en public, de Brazzaville.
Toutes les infos, les rendez-vous,
sur franceinter.fr.
France Inter,
la voix est libre.
Il est prêt à vous écouter, c'est là-bas si j'y suis et c'est Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, c'est Pascal Dumont. Je viens d'entendre sur votre antenne qu'un poste de pape vient de se libérer ou serait sur le point de se libérer. Serais-tu assez aimable de nous transmettre les coordonnées auxquelles il faut postuler? Parce qu'après tout, ce poste pourrait m'intéresser. Ça semble pas trop mal payé. Et puis les conditions de travail n'ont pas l'air trop pénibles puisqu'on peut tenir jusqu'à 85 ans et plus dans le poste. Merci de nous donner ces informations.
Le pape démissionne pour raison de santé. Eh bien, c'est très très inquiétant parce que le pape, c'est quand même le représentant de Dieu sur Terre. En plus, c'est le descendant de Saint-Pierre qui est le pote de Jésus, le fils de Dieu. Alors, si Dieu s'occupe pas de la santé de son représentant sur Terre et du pote de son fils, ça veut dire que... on va tous crever !
Par rapport au pape là qui s'en va... Il me revient une anecdote, quand j'étais petit, j'avais demandé à mon grand-père quelle est la différence entre une secte et une religion. Et mon grand-père, il m'avait dit, bah écoute, c'est simple, une religion, c'est une secte qui a bien réussi.
Heureusement, il y a Findus, Findus, Amen.
Le futur ministère de la Défense voulu par Sarko, construit par Bouygues, devait coûter 745 millions d'euros. Mais, au miracle, grâce au partenariat public-privé, il en coûtera 3 milliards 500 millions sur une durée de 30 ans, à lire dans les archives du Parisien, journal d'extrême-gauche bien connu. Ciao, c'était Pierrot.
Je voudrais saluer le courage et la détermination d'une détenue qui, la semaine passée, a enfin réussi à faire condamner son employeur pour licenciement abusif. Il s'agit dans ce cas d'une plateforme téléphonique et cette condamnation au prud'homme est une première. Première fois que le droit du travail entre en prison de façon effective. L'employeur de cette femme est donc condamné à lui payer la somme de 3000 euros de dommages, plus les indemnités dues en préavis de son licenciement. Il faut espérer que cette première sera suivie de beaucoup d'autres, car ce sont des centaines de détenus femmes et hommes qui sont exploités dans nos prisons françaises, sous-payés et à la moindre revendication virés comme des merdes et privés de toute autre future activité rémunérée. Lourd handicap pour toutes celles et ceux qui ne bénéficient pas de soutien financier extérieur, car en prison, tout se paye et très très cher. Je tire mon chapeau à cette femme, force et détermination à tous les autres. Johan de Perros-Guirec.
Au sujet des retraites, un auditeur s'étonne, à juste raison, que le seul argument avancé par les élites qui nous gouvernent, droite et gauche confondues, pour nous faire travailler plus longtemps, soit l'allongement de la durée de vie moyenne des Français. Et il se demande quelles sont les données statistiques qui fondent cette affirmation. Je lui recommande de réécouter l'entretien de Daniel Mermet avec Gérard Filoche dans « Là-bas si j'y suis » du 8 septembre 2010. Il y apprendra que l'indicateur démographique appelé « espérance de vie à la naissance » a été dévoyé par les politiques et les économistes. En effet, comme l'écrivait Alfred Sauvy, l'espérance de vie à la naissance ne nous dit rien de la durée de vie des enfants nés cette année-là, mais mesure en fait la mortalité du moment présent. Autrement dit, quand on calcule l'espérance à vivre des personnes âgées de 70 ans, on a une bonne probabilité d'être dans le vrai. Mais quand on dit aux jeunes de 15 ans qu'ils vivront assurément jusqu'à 100 ans, on leur ment d'une façon scandaleuse. Le plus étonnant, c'est qu'on n'interroge jamais un démographe qui confirmerait aisément tout cela.
Ras le bol de ce pape et de tout ce qu'on nous incurgite. Alors j'ai du mal à comprendre que France Inter, service public, fasse la une de son journal avec la démission du pape. Mais on s'en fout du pape, avec tous les problèmes qu'on a. Alors ils sont contre le mariage gay, ils sont les problèmes sociaux, ça les intéresse vraiment pas. Je suis consternée que France Inter donne autant de place au pape.
On ferme la fenêtre et la foule s'en va. S'en va par la ville en répétant « Ça y est, nous l'avons vu, nous l'avons touché du regard. » Un peu plus tard, assis sur ses fesses dans son carrosse de nougat doré, le grand taulier du Vatican fait le tour de son quartier réservé. Et puis il rentre au Vatican où, fier lui aussi comme un pape, son vieux papa l'attend. Effusion familiale, grandes eaux lacrymales, le père a une tête de vieux paysan, il fume la pipe, il est simple. Hélas, hélas, la pipe au papa du pape pue.
Ah, il est bête le pape! Il est gratiné le pape! Et il se vautre, il plaisante salement. L'index sacré! Sais-tu où on le met l'index? Dans la rue de l'Échaudé? C'en est trop! L'autre affreux vieillard, c'est le pape, il faut appeler les choses par leur nom. Un chien, c'est un chien, un tournesol, c'est un tournesol, une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg, c'est une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un jardin, une fleur, c'est une fleur, mais un pape, qu'est-ce que c'est? Un affreux vieillard.
Vous l'aviez reconnu, non? Serge Reggiani. Serge Reggiani, qui dit la crise, la crosse en l'air, pas la crise en l'air, mais la crosse en l'air, de Jacques Prévert, un texte de 1936, histoire de d'opposer un tout petit peu quelque chose à ce cœur unanime. Et c'est vrai qu'on est impressionné par la place immense occupée par l'Église catholique dans les médias, si vigilant d'ordinaire à défendre la laïcité. Si jamais une malheureuse gamine arrive à l'école avec un voile sur la tête, vous connaissez tout ça par cœur. Et vous allez dire, ah oui, d'accord, alors voilà, bouffeur de curé. Ou pas forcément de tous, pas forcément de tous. Et je voudrais rendre un hommage, là, puisqu'on parle d'église et de Vatican et de curé, à la Prévert, hommage à Jean Raguenès. Jean Raguenès est mort il y a quelques jours à São Paulo, au Brésil. Il avait 80 ans et c'était un prêtre dominicain. Ceux qui ont vu le merveilleux film de Christian Rouault sorti en 2007, L'Élipe, l'imagination au pouvoir, se souviennent de ce bonhomme engagé dans la lutte de l'Élipe de mai 68 à la fin de l'Élipe. Et après quoi, eh bien, il avait continué à vivre ses convictions, son engagement, qui était un engagement politique, il faut bien le dire, et on l'avait croisé avec Henri Desrosiers au Brésil, avec Guy Antil. Voilà, un salut à cet homme remarquable, auquel, sur le site Mediapart, il a été rendu hommage. Une certaine Lamia Walalou a songé à cet homme-là, qui, selon Henri Desrosiers, avait pour message essentiel de placer l'homme au centre de toute la grandeur de l'être humain, quel qu'il soit. Voilà, deux figures de l'Église aujourd'hui dans la basse. D'autres lutteurs sociaux, en l'occurrence, sont ceux qui étaient ce matin à Rueil-Malmaison. On va les retrouver. Antoine Chao était là avec le micro de là-bas, si j'y suis. Après quoi, on se rendra en Tunisie. On continue notre balade en Tunisie, balade un petit peu secouée, disons, on va dire comme ça, avec ce mot mystérieux dont je crois avoir trouvé la clé, le peuple veut. Mais d'abord, on va à Rueil-Malmaison, où ça bougeait ce matin.
Alors, il est 8h du matin, à Rueil-Malmaison, en face du siège de Goodyear Dunlop, ici dans un petit quartier pavillonnaire, pas loin du country club et du golf. Il y a un cordon de CRS, là, qui bloque le passage. Et là, on se réchauffe autour d'un bras zéro de fumigène.
C'est la chienlit.
Mais ça va être compliqué d'aller au golf, hein, qui est juste à côté, là. Hein.
Écoutez, aujourd'hui, de toute façon, j'ai donné congé à ma bonne. En plus, aujourd'hui, il y a grève dans l'éducation nationale. Donc, ça fait des ordres. Donc, les petits-enfants des bourgeois doivent passer entre des CRS. Bon, ça, c'est pour les habitués, quand même, hein, pour savoir de
un
quel côté.
Ouais.
Voilà, de quel côté sont les amis. Et plein d'ouvriers partout. C'est la chienlit.
Et ça y est, les quarts d'Amiens, les quarts des travailleurs de Goodyear, des grévistes de Goodyear arrivent. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner. Ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Ça, c'est les pancartes banderoles. Non à la casse de l'industrie. Merci aux salariés de Goodyear qui se battent pour l'emploi industriel.
Les camarades de Goodyear, vous êtes bien ? Ouais ! Après 6 ans de lutte, 800 salariés de Goodyear viennent défendre dignement leur emploi.
Allez, Lucas !
Michael Wamin, alors, est monté sur le toit du camion.
Avancez, les Goodyear, par là !
Avancez.
Allez,
ouais,
allez, allez, allez,
ouais, ouais, ouais. Le journal Fakir.
La lutte des Goodyear, la lutte des Goodyear devient une lutte emblématique plus que jamais. Il y a les Fralib ici présents qui se battent depuis des années, les Arcelor qui subissent comme nous, les Trois Suisses, les Bridgestone, les Valeo qui bientôt aussi vont connaître certainement un mauvais sort. Toutes ces entreprises, Peugeot qui va arriver à une grosse délégation d'ici peu de temps. Quelques chiffres, le groupe Goodyear a annoncé en 2012 700 millions de dollars de bénéfices nets après impôts. Le directeur général du groupe a passé sa rémunération de 5 millions de dollars en 2009 à 12 millions de dollars en 2011. Le groupe Goodyear n'a donc aucune justification à vouloir fermer notre entreprise. 13 quarts se sont mobilisés, les salariés sont venus en masse. Dignement, on ne lâchera rien pour que cette usine vive, que l'on puisse avoir notre travail et le droit de vivre tout simplement. Allez, moi je vais en réunion parce qu'apparemment il y a la direction qui s'ennuie de ma personne. En tout cas, je tenais quand même à vous rappeler que sans vous, ça faisait 6 mois maintenant que j'aurais été licencié. J'étais 5 fois mis en examen, je suis toujours debout et ça, uniquement grâce à vous, si je suis encore là, debout, pour prendre la parole, c'est grâce à vous. Merci mes camarades.
Alors Agathe, aujourd'hui là devant le siège de Goodyear, ici à Rueil-Malmaison, pour interdire les licenciements boursiers ou les licenciements dans les entreprises qui sont rentables, hein, comme dirait François Hollande. Mais pour l'instant quand même, à PSA, on essaye de licencier les syndicalistes. Vous en êtes où des syndicalistes qui ont été convoqués ?
Alors déjà, sur la loi sur l'interdiction des licenciements boursiers, si j'ai bien entendu ce matin, c'est au mois de juillet. Donc il va peut-être falloir se bouger avant parce que les licenciements, c'est 1500 par jour, donc ça ne fait pas le compte. Et puis autrement, pour les licenciés, mise à pied conservatoire pour licenciement pour fait de grève, et ben, on attend que le médiateur et le gouvernement donc, se bougent aussi sur ce terrain-là. Parce que pour le moment, on n'a rien de concret. On n'a pas entendu le gouvernement se prononcer contre. On n'a pas encore entendu le médiateur faire son boulot sur ce sujet. Donc voilà, on attend. Jeudi, là, on est deux délégués du CHSCT à passer, Samir et moi. On est deux à passer devant le CE de l'entreprise. Et c'est là que les syndicats ils vont décider si on est licenciable ou pas. Après, au choix du patron d'écouter les avis des syndicats ou de ne pas les écouter.
Et ça veut dire quoi, une mise à pied conservatoire ?
Ça veut dire qu'on est licencié de fait à partir de la réception de la lettre, soit par l'huissier, soit par courrier en accusé réception. Moi, je l'ai reçu le vendredi 29 janvier, je crois. Ça veut dire qu'on ne touche plus de salaire et qu'on ne touche plus de salaire jusqu'à ce que le patron il nous licencie réellement ou soit qu'il nous réintègre dans l'entreprise. Bon, pour le moment, ça ne change pas grand-chose puisqu'on est en grève. Donc, de toute façon, on ne touche pas notre salaire. Par contre, au moment où la grève se termine, j'espère pas tout de suite, mais le jour où les camarades ils décident de reprendre le travail, nous, on ne peut plus reprendre le travail. Et là, donc, ils ont décidé de continuer. PSA, ils ont décidé de continuer la procédure puisqu'ils nous font passer, Samir et moi, devant le CE de l'entreprise.
Merci, Agathe. À bientôt.
À bientôt.
Courage.
Il n'y a pas de problème. On a du courage et de la détermination.
Je tiens à vous apporter le soutien chaleureux, fraternel, dans cette lutte.
Non mais franchement, vous êtes touchant. Hein. Oh, mes petits dinosaures là, mes petits dinosaures communistes. Ah, oh, Radio CGT, vous y croyez encore à tout ça? Franchement, ça vous interroge pas le monde tel qu'il est à l'heure actuelle? Vous n'avez pas envie de progresser, d'évoluer? Non, d'être accroché aux petits idéaux marxistes. Pff, sais pas. Je suis étonnée quand même. Vous êtes des gars intelligents. Ah là là, pauvre petit dinosaure. J'ai pas envie de changer d'avis.
Je suis Michel, élu d'un petit village de montagne du Haut-Jura, La Pesse. En ce moment, nous sommes sous à peu près 1,50 m de neige. Mardi 12 février, ce sera le 7e jour de la grève de la faim de deux élus, dont l'ancien maire du village. Ils ont décidé de faire une grève de la faim pour exprimer leur incompréhension devant une injustice criante. Une fermeture de classe dans un RPI regroupant deux villages de montagne et regroupant quatre classes. Si la classe devait fermer, l'instituteur restant devrait se retrouver devant 30 élèves de 2 ans au CP, c'est-à-dire plus de 4 niveaux. Comment arriver à faire apprendre à lire et écrire des élèves dans de telles conditions? En entendant parler des rythmes scolaires, l'opinion publique se focalise sur ce problème et on oublie de parler des villages ruraux et de montagne, et des fermetures de classe et surtout de la carte scolaire qui est tellement injuste.
Le vent. Tandis que j'embrassais sa croupe, elle lâcha un paix furtif. « Vous avez, dis-je, le vent en poupe, et il s'engouffre dans mes tifs. Si vous craignez le vent arrière dans vos trois poils sur le caillou, me dit la belle, je vous suggère une chose. Embrassez ma proue. » C'était le poète dans la tempête. Salut.
Une foule de 5000 personnes pour accompagner Mohamed Bouazizi dans sa dernière demeure. Au passage du cercueil, certains crient vengeance. Le vendeur ambulant s'est immolé par le feu devant les bureaux du gouverneur de Sidi Bouzid mi-décembre. Il voulait protester contre la confiscation de sa marchandise par la police. Cet acte désespéré est ensuite devenu le symbole de la contestation étudiante contre la vie chère. Les autorités craignent d'autres suicides. Mercredi, à Sidi Bouzid, une femme et ses trois enfants ont grimpé sur un pylône électrique et ont menacé de se donner la mort pour obtenir un emploi et un logement. L'électricité a ensuite été coupée dans un quartier de la ville.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Basse J'y suis avec Anaël Berzo et Guy Ventil. Tunisie, le peuple veut. Flight number 2. Arriving.
Bonjour les enfants, bonjour.
Bonjour.
Qui c'est? Viens voir, raconte-moi qui c'est le garçon là.
C'est Mohamed Bouazizi. اللي انتحر خطر مراض ربطه كف في شهر ديسمبر لازمنا نحتفلوا بالثورة ذي على خطر ثورة الحرية والكرامة.
Lui c'est Mohamed Bouazizi, le jeune homme qui s'est suicidé quand une femme policière l'a giflé. Et c'était le 17 décembre 2010. Et le mois de décembre, il faut qu'on fête cette révolution parce que c'est la révolution de la liberté et de la dignité.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir les enfants.
Aujourd'hui, la lutte est contagieuse dans la Basse J'y suis. On a parlé de Goodyear, de PSA, de Fralib, de Valeo, d'ArcelorMittal, de Sanofi et beaucoup d'autres qui continuent le combat contre la destruction programmée des emplois et contre un gouvernement socialiste et sa politique d'impuissance, chômage, précarité, inégalité. C'est la cause majeure de la révolution tunisienne. Et là aussi, le gouvernement fait le choix de l'impuissance. Un exemple parmi d'autres, qu'en est-il de la fortune nationale volée par le surnommé Ben Ali Baba et ses 40 voleurs et ses 400 voleurs? Des milliards d'euros détournés par une kleptocratie rapace, alors qu'à Sidi Bouzid où nous sommes, d'où tout est parti il y a 2 ans, rien ou presque n'a changé. À Tunis, une vente aux enchères publiques d'objets confisqués dans les palais de l'ancienne amie de la France rapportera quelques millions d'euros. Une goutte d'eau par rapport aux milliards envolés. 10, 15, 20 milliards envolés. Pour se redonner du courage, on se répète le mot fameux « le peuple veut ». Le peuple veut, l'expression est passée dans tout le monde arabe. Et on a cherché un peu, mais d'où ça vient cette belle expression, le peuple veut? Eh bien, c'est des vers, c'est un extrait de vers du poète Abou al-Qassem al-Chabi. Et c'est un poème qui sert, qui sont les paroles, qui constituent les paroles de l'hymne national, qui finit ainsi. Lorsqu'un jour, le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre, aux ténèbres de se dissiper, aux chaînes de se rompre. On aurait pu reprendre ça en chœur ce matin devant chez Goodyear. C'est là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h, le peuple veut.
Majorité silencieuse. M'alhabesh n'amel buzz. Pour la vérité je creuse. Sound of freedom. Un soldat qui vient de l'armada. Je me pose des questions. Même de l'anidra mais contre pression. Halaini qui te reste de tension. Jaouim karib, l'excès d'arib. Fibled la houcha ou la kharib. L'akkar d'arib. La bête est harib, le d'arib. Régi fik chi talib. M'haki talib. Chabi Allah ghalib. حبوا يردوك كيف القالب بلاش قلب بلا ما طالب كيفيك انفيزي Rest in peace محمد البوعزيزي من سيدي بوزيد شكون الجلاد شكون السيد الاستعباد خلق شهيد Encore une victime Encore un suicide كبش بدال نهار العيد شعلت النار باللوقيد كسر القيد غدوة نهار جديد الخوف طار ولد الشعب فار فنضيطة من الدمار يا حشاد شوف شوف الخيانة بالمكشوف برشا صفوف برشا كلام برشا كلات كفوف تهاو فلان موقوف غيفورت من قسوة الظروف ما يدوم الكسوف الوضع تخبل بين القانع والملهوف بين القصر والخيمة بين اللي بات عالريش واللي تمد عالسيمة Don't stop, fight for your right man We don't stop, and you can see the light man You don't stop, the rap, the music of revolution Until the end with devotion Don't stop, fight for your right man We don't stop, and you can see the light man You don't stop, the rap, the music of revolution Until the end with devotion
Identité nationale m'ta Tunisie, hedi hey
Alors, Sidi Bouzid, nous voilà à Sidi Bouzid, au milieu de cette ville, dont le nom a été répété, mais alors, dans le monde entier, il n'y a pas un village du monde qui ignore le nom de cette ville, là où nous sommes, de Tunisie, le 17 décembre 2010. Ici même, là, il y a un garçon qui s'est immolé par le feu, Mohamed Bouazizi. Et à partir de son geste, eh ben, c'était la... La Tunisie qui s'enflammait, c'était la révolution tunisienne, et puis ensuite égyptienne, libyenne, syrienne, yéménite, bahreïnite, partout dans le monde arabe, c'était le grand chambardement, le grand renversement. Et là, depuis, on est sur cette place-là, il y a une sculpture assez étonnante quand même, hein, qui représente une charrette de... marchand de légumes, ce qui était Mohamed Bouazizi, il était marchand de légumes. Et c'est assez beau parce qu'on a l'impression que là, autour de la charrette, la sculpture tombe en ruine. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que la charrette avance et on voit des choses qui tombent comme ça, des caillasses, des pierres. Des... Et si on s'approche, si on dit, on est plus attentif, on voit que ce sont des chaises, des sièges qui tombent. Et c'est les sièges des assis, c'est les sièges du pouvoir qui tombent poussés par la charrette de ce garçon. C'est assez beau, hein? Et là, il y a la date, effectivement, 17 décembre 2010. Voilà, avec le drapeau tunisien sur la charrette.
Il y a écrit sur le drapeau, la Tunisie est au-dessus de toute considération.
La Tunisie au-dessus de tout. Et ça, c'est le pochoir qui représente Mohamed Bouazizi.
C'est ça. C'est le visage de Mohamed Bouazizi sur le pochoir. Et à côté, il y a marqué « Révolution du 17 décembre ».
Sur le
la façade de la poste, il y a un immense poster qui représente, ça rappelle les peintures des martyrs hein, qu'on voit à Gaza, par exemple.
Et en fait, si vous voyez bien, sur cette grande affiche, donc sur la moitié basse, il y a le visage, le portrait de Mohamed Bouazizi. Et tout en haut de l'affiche, il y a écrit « Le mouvement révolutionnaire dans le monde après le 17 décembre 2010 ». Et on voit sur la moitié haute toutes des photos de tous les pays où il y a eu des soulèvements depuis le 17 décembre 2010. Donc on voit Bahreïn, Égypte, Yémen, Irak, Libye, Grèce, tous les pays avec des photos de foule par pays.
Non mais c'est pas faux. À partir de ce garçon, à partir du geste de ce garçon, de son immolation, la révolution s'étend à toute la planète. En tout cas, au moins au monde arabe, mais sans doute aussi au-delà. C'est très difficile de mesurer ces secousses. Est-ce que ça débloque ? Oui, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Soyez le bienvenu à Sidi Bouzid.
Merci. Et on est impressionné quand même. Hein. Ah, elle est très belle, cette sculpture-là, avec la charrette.
Cette sculpture, il y a des gens qui s'en comptent.
Ah
oui. Il essaie à chaque fois de l'abîmer.
Mais qui vient la casser ?
Bien sûr, ce sont des gamins, ce sont des gens qui n'acceptent pas la révolution. Alors qu'on a besoin d'une révolution.
Ben oui, vous êtes en plein dedans.
Ah oui, on est encore en révolution. Nous n'allons pas retourner en arrière. Absolument.
Quand même.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons vu en France 2, la semaine dernière, ce n'est pas la réalité.
Le reportage d'envoyé spécial
sur la Tunisie, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité.
Oui, c'est-à-dire que le film montre des salafistes très agressifs.
Est-ce que vous avez vu des salafistes ? Vous êtes assez débougé. Est-ce que vous avez vu, vous, des salafistes ?
Non.
Aucun problème, ce n'est pas la réalité et la vérité.
Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous voulez poser d'autres questions,
pour l'instant, je n'ai pas posé de questions. Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Laïfi Mohadi.
Merci beaucoup.
C'est ici que le mécontentement a éclaté il y a 12 jours.
France 2, 30 décembre 2010.
Ces jeunes chômeurs laissent libre cours à leur colère devant le gouvernorat. Image rare dans une Tunisie où l'information est strictement contrôlée. Nous vivons chaque jour un peu plus d'humiliation, de pauvreté, de souffrance. Sidi Bouzid est le seul département où il n'y a aucune usine. Mardi, pour tenter de désamorcer la crise, le président tunisien s'est rendu dans le centre pour grands brûlés de Tunis, où le jeune homme est soigné. Mais le président Ben Ali a dénoncé à la télévision ce qu'il qualifie de violence fomentée par des extrémistes qui nuisent à l'économie et au tourisme du pays. Pourtant, les manifestations commencées à Sidi Bouzid et à Menzel Bouzayand ont gagné de nombreuses autres villes et même la capitale, Tunis.
Madame, vous avez fait la révolution, vous aussi ?
Non, j'ai pas participé personnellement, mais l'idée m'a beaucoup plu. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon on aurait été dans le fossé maintenant.
Donc les choses se sont améliorées ?
Non, la situation ne s'est pas améliorée, mais la Tunisie n'est pas allée dans le fossé, n'est pas tombée. Mais sinon, le bonheur, on ne l'a pas vu, hein, on n'en a pas vu de bonheur.
C'est quoi le bonheur ?
قلت لك ما ريناش سعادة معناها ما عطوناش معناها ما عاونوناش نحن القلال ولا عطونا معناها شغل ولا هي كيما في بن علي كيما تو
j'ai dit qu'on n'a pas vu le bonheur parce que nous les pauvres on ne nous a rien donné ni aide sociale ni travail ni rien c'est exactement la même situation moi je fais exactement la même chose pour gagner ma vie que je faisais sous Ben Ali je suis femme de ménage dans les maisons et voilà et moi je continue même après la révolution je fais la même chose
le 23 octobre 2011 vous avez voté
Oui, j'ai voté aux dernières élections.
Pour qui vous avez voté alors ?
Je vous jure, je ne sais même pas pour qui j'ai voté. Moi, je ne sais pas lire. J'ai fait une croix quelque part et je ne sais pas. Bah, je suis tunisienne, j'ai le droit de voter. Je suis allée au bureau de vote, j'ai dit comment on fait pour voter. Voilà, j'ai 60 ans, j'attends pas à ce qu'on me dise. Je suis allée pour voter parce que je suis tunisienne, moi. Et je suis allée au bureau, j'ai dit comment on fait. On m'a dit voilà le papier, mettez une croix où vous voulez. Je suis entrée, j'ai mis une croix où j'ai voulu, n'importe où, et je suis partie.
D'accord.
Dans l'iconographie, dans l'imaginaire collectif, le révolutionnaire, c'est personnage romantique, beau, jeune, barbu, éventuellement, qui est là, qui offre son torse à la contre-révolution. Et non, là, c'est une petite dame qui a déjà la bouteille. Avant, c'est un monsieur, un petit pépère qui passe comme ça. C'est assez beau quand le mot révolution est prononcé par des gens comme ça qui passent simplement auprès de cette étonnante statue ici à Sidi Bouzid. C'était juste avant ces moments que nous avons passés là, c'était quelques jours avant l'assassinat de Choukri Belaïde. Aujourd'hui, la ville est beaucoup plus tendue, il y a des manifestations en permanence, des répressions en permanence, c'est très très tendu. Dans cette ville, d'où tout est parti, c'est vrai. Oui, c'est voilà la Tunisie. On leur a tellement dit vous avez changé le monde que les Tunisiens eux-mêmes ont fini par le croire. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de mouvements à travers le monde, les indignés, le mouvement des tentes, par exemple à Tel Aviv, en Israël, le mouvement des carrés rouges, et à Montréal, ça s'appelait le printemps érable. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça une référence. Voilà, à ce mouvement, à ce geste de ce garçon qui, à bout, s'est flingué comme Jan Palach. Vous vous souvenez peut-être de Jan Palach à Prague. Ça avait été un geste qui avait vraiment entraîné des prises de conscience et des étincelles comme ça qui explosent et qui ont des conséquences. Et puis évidemment, qui dit révolution, dit aussi contre-révolution. On est à Sidi Bouzid.
Le monsieur vient, ils n'ont rien fait de nouveau, ils n'ont rien réalisé comme projet, rien du tout, on n'a rien vu. Il
n'y
a que des paroles, il ne se passe que des mots, il n'y a que les paroles.
C'est le jeune homme qui allait monter dans sa voiture et il a vu qu'on parlait de ça, alors il arrive.
Voilà, Emporio Jeans, il est chic le garçon là.
Sidi Bouzid, c'est un...
C'était une ville oubliée, Sidi Bouzid.
Et pourtant, là, on est devant la sculpture en hommage à ce garçon, Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé par le feu.
Lui, bon, oui, on le connaissait, évidemment, mais lui, il s'est suicidé. Maintenant, il est dans le repos. Et nous, on est encore là à souffrir. On n'a rien vu, on n'a rien gagné de son décès.
Contre tout ça, comment vous vous organisez? Comment vous agissez, vous?
Alors moi en tant que jeune de Sidi Bouzid, bon, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on parle il y a un peu d'écoute, il n'y a personne qui vient nous encadrer, et du coup moi il n'y a pas longtemps j'ai adhéré à une association qui est l'association de la citoyenneté à Sidi Bouzid pour la réussite du processus démocratique, et j'ai fait une formation avec l'UNESCO, et en fait maintenant moi je veux participer dans la vie politique via les associations pour améliorer les choses.
Tu veux faire de la politique?
Oui. Parce qu'au lieu de pleurer comme ça tout le temps, c'est bien d'agir quand même.
كبرت الموسى وكبرت معاها اليوم الأحلام فن الخضر حزين يغلي فيه بركان أفكارنا الغامل وكان تعفص عليها تتفجر يبقى نون الراب وقف ما كانت نجم غرامي للورقة من الصغرى فيا ساكن والفن الراقي ما يرضاش يعيش بين التراكن البلاد بجبالها المدينة ببيبانها وكان الراب حضارة تبني فيها اليوم رجالها نقول في قطع فينا عشنا أخطار بالأحنا جديد تردخ فينا عشنا أخطار للمستقبل يعذب فينا عشنا أخطار نفس الهمة نفس الوحدة ربنا مشاجر شكرا مور مهما الظلام داير بينا عشنا أخطوع مهما كلام قال فينا عشنا أخطوع ذي الحسات يتوقف فينا عشنا أخطوع نفس الهمة نفس الوحدة ربنا مشاجر شكرا مور نحبهم
Madame Chef, Tunisia, Alien à capitale, pour la jeunesse perdue, pour le rap tunisien, Wakaf Nakanet Nashem, Wakaf Nakanet Nashem.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette statue-là en hommage à Mohamed Bouazizi ? C'est normal qu'elle soit comme ça ou elle a été vandalisée ?
هي ديجا مكسره من قبل هكاك معناها هي صمبو مي جوست حاجه بسيطه كسروها منعرفش اما هي كيك من الاول فهمت كيفاش
نو سيتي ديجا كوم سا سا في بارتي دو لا سكولتور لي شيز كاسي تو مي يا ان مورسو كي ايتي لا اي سي سويلا كيزون كاسي كيزون مي بار تير
سي سا اللي كنا نحكوا فيه معناها العباد كيما هكا عباد متهمجين همجيه
سي سون لي جون لي ديلانكون
سي كي مارون سي كو Ils ont cassé ce qui est cassé. C'est-à-dire que le sculpteur qui représente ça veut montrer que la charrette de Bouazizi, la charrette du petit marchand de légumes, avance et puis renverse les sièges du pouvoir. Et c'est ces sièges du pouvoir qui sont poussés par la charrette et qui sont cassés, qui s'effondrent, etc. Et ceux qui ont voulu s'attaquer à la statue ont cassé à nouveau les sièges cassés. Ils vont dans le sens. Ils sont d'accord avec le sculpteur. Ils sont d'accord avec Bouazizi sans le savoir. C'est des formidables crétins, mais qui vont dans le sens de l'histoire.
Sidi Bouzid, où est-ce que le chaos ?
Sidi Bouzid, c'est devenu le chaos.
Pourquoi ?
عاش كل واحد عنده رأي يحب يقوله كل واحد كانت العباد الكل ساكتة ومن بعد الناس كلها تحب تحكي خاطر قبل ما نجموش يحكوا
Maintenant, chacun a une opinion à exprimer. Tout le monde parle dans tous les sens. Avant, tout le monde était en silence et comme c'était interdit de parler, alors maintenant, tout le monde se met à exprimer son opinion.
اللي مخوفني اني كي نمشي في الشارع نخاف انا كي نبدا نمشي في الشارع نخاف من العباد بالحق كثرت برشا حاجات ما تفهمش واحد يجي معناش بولد برشا وما فهمت كيفاش
moi personnellement maintenant j'ai peur quand je marche dans la rue en général il y a plus de sécurité on sait pas qui va venir d'où et...
vous avez un sentiment d'insécurité
oui oui oui
Ouais, mais avant, vous en aviez vraiment beaucoup de la sécurité.
Beaucoup.
Vous n'aviez que ça. Avant, vous n'aviez que ça. Mais est-ce que vous sentez, vous êtes une femme, vous êtes là en cheveux, dans la rue et tout ça, magnifique. Est-ce que vous sentez une pression sur les femmes avec le parti Ennahda, qui est un parti religieux, avec les salafistes qui veulent voiler les femmes, etc. On dit toujours que les Tunisiennes, c'est les femmes les plus libres.
Je ne vote pas. Mais si on vote, on vote l'Ennahda.
Moi, je n'ai pas voté, mais si j'avais à voter, je voterais Ennahda.
Bon, خاطر الحزب الوحيد المعروف.
Bon, c'est parce que c'est le seul parti connu.
Voilà. Eh oui, c'est ça, c'est le seul parti connu. Donc, on se dit, voilà ce qu'il faut. Il faut quand même quelque chose d'un peu organisé pour le pays, qui soit en mesure de diriger les choses. On ne va pas s'aventurer. Donc, eux, c'est connu, on va voter pour eux. Comme tu achètes la meilleure marque, la plus connue, quand tu rentres dans un supermarché.
Voilà en Égypte, Daniel.
Nous voilà en Égypte, mais je ne sais pas si vous avez vu Covadis, le film Les Péplums américains. On est là, on est dans un péplum américain. C'est un temple. C'est le temple des pharaons. Et en fait, c'était un casino qui appartenait à qui
Blassan, famille Trabelsi.
Oh le beau-frère. Mais c'est énorme, hein, c'est énorme.
Voilà, on passe la porte dorée.
Waouh! Un casino. Et alors, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Des bagnoles, des grosses bagnoles, des gros 4x4, des grosses Mercedes, des grosses bagnoles de bling-bling. Alors là, c'est... on est dans le rêve de Sarkozy avec ses peintures pharaoniques et immense salle.
Avec la moquette.
Un petit peu, ouais, qui commence un peu à...
assez frité.
Des photos de la Révolution affichées. Et il y a marqué « Révolution de la liberté et de la dignité » un peu partout, parsemé entre les voitures super luxueuses.
Alors, défense de toucher, ça c'est une énorme Nissan 4x4, BMW, Mercedes, Mercedes, Bentley, Jaguar, BMW, Mercedes, Ford. Ça c'est, je sais même pas c'est quoi comme marque, un truc Porsche.
Aston Martin.
Aston Martin.
Bentley, ça.
Oh mais on s'y connaît en voiture, l'air de rien, là-bas si j'y suis. Parfois, j'avoue une certaine commisération ou incompréhension, comme vous voulez, pour des gens comme DSK, ou Chirac, ou Éric Raoult, ou Michel Alliot-Marty, ou M. Delannoy, ou M. Frédéric Mitterrand, tous les amis de la Tunisie, tous les amis du président Ben Ali. Quand je pense qu'ils sont dus dans cet endroit-là,
ils ont dû s'emmerder, mais ils ont dû s'emmerder. C'est laid, c'est hideux ce genre d'endroit, espèce de. Vous vous souvenez de Ben Hur?
Alors j'étais, le film était très bien fait. Vous vous souvenez des décors en carton-pâte avec des temples grecs, égyptiens, Covadis, les grands péplums des années 50 avec Victor Mature. Vous n'avez pas connu Victor Mature, vous qui m'écoutez.
Bon, on s'attend à ce que Victor Mature arrive et descende de la bagnole du président, une Maybach. Vous savez, vous connaissiez pas la Maybach? Ça, c'est une voiture extrêmement rare. Là, une autre voiture encore, l'Aston Martin qu'on vient de voir, là, avec Guy, on est absolument stupéfait. Aston Martin, des bagnoles qui coûtent des fortunes. Et c'est ainsi que, quand même, le gouvernement actuel de la Tunisie s'est dit quand même, il faudrait calmer le peuple. Le peuple, il faut le calmer de temps en temps. Alors, ils ont confisqué des objets, des voitures, des bijoux, tout un tas de choses dont on n'a rien à foutre, absolument. Ils ont mis tout ça dans ce casino à la Covadis, à la Ben Hur. Et vous pouvez aller acheter ce que vous voulez. Alors, il y a des voitures qui sont déjà achetées. C'est une enchère par soumission. Tiens, vous mettez votre proposition dans une enveloppe et puis vous serez peut-être de bienheureux propriétaire un jour prochain d'une de ces luxueuses choses, y compris d'ailleurs les robes de la femme du président. Quand même, c'est pas rien. Leila Trabelsi, ses robes, ses godasses, ses sacs à main, et toute la famille, et toutes les. C'est extraordinaire histoire des Trabelsi qui étaient eux-mêmes des marchands de légumes dans les rues de Tunis. C'est une histoire stupéfiante. Il y a un moment, c'est plus marrant du tout. C'est plus marrant du tout quand on pense que ce qu'on pourra souhaiter de. Qu'on prévoit comme vente, comme fruit de cette vente, ce sera peut-être quelques 10 millions d'euros, alors que les Ben Ali voleurs et les 40, 50, 150 babas qui sont la kleptocratie tunisienne a soustrait une grande partie de la fortune de ce pays, et cette fortune, eh ben, elle s'est évaporée dans la nature, et certains ne désespèrent pas un beau jour de faire rentrer cet argent, cette fortune volée, parce qu'il s'agit du bien commun des Tunisiens dans le pays. C'est le cas d'Anouar El Bassi, avocat à Tunis.
Allô?
Anouar El Bassi?
Oui, bonjour. Je suis avocat porte-parole du groupe des 25 avocats qui a été le premier groupe à initier les poursuites à l'encontre des anciens du régime de Ben Ali.
Oui.
Pour détournement de fonds publics. Je suis aussi secrétaire général adjoint de la Coordination nationale indépendante pour la justice transitionnelle.
Très bien. Alors, Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette splendide exposition que vous avez encore actuellement à Tunis, avec des biens confisqués, qu'on peut visiter dans ce superbe casino sur la côte, et où on peut voir vraiment toute la fortune de la famille Ben Ali et des 40 voleurs. Et alors, on a visité ça, on était absolument éblouis, on a hésité à acheter tellement c'était merveilleux, puis on se dit qu'on n'a peut-être pas les moyens. Mais enfin, on sent quand même, vous allez me dire votre point de vue, qu'il s'agit d'une petite mascarade.
C'est le terme, c'est le terme. C'est une mascarade, une vraie mascarade, et à la limite, une insulte à la mémoire des martyrs. Et sur le plan juridico-politique,
oui.
C'est un non-sens, et c'est d'une inefficacité, comme si au bout de 2 ans, ça y est, nous avons tout repris, tout ramené, tout récupéré, et voilà, on en expose quelques... Et ça, c'est pour cacher un peu la paralysie et l'inefficacité dans les procédures judiciaires et dans les interventions politiques auprès des États étrangers pour vraiment essayer de récupérer un tant soit peu des fonds énormes pour
Alors,
un pays comme la Tunisie.
Maître, dites-moi un petit peu, vous dites des fonds énormes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ces fonds? Qu'est-ce que ça constitue?
Là, je n'ai pas une estimation exacte. Personne ne pourra l'avoir. Mais je voudrais juste rappeler que ces fonds-là, ils proviennent de quoi? Ils proviennent de Haute-Vin pendant 23 années sur pratiquement tous les marchés publics de la Tunisie. Sur tout ce qui est privatisation du secteur public, bien sûr, vous savez très bien que cette privatisation, c'est l'une des conditions sine qua non des sphères financières internationales. Et ça provient aussi de projets économiques, industriels et commerciaux énormes financés par les banques tunisiennes sans aucune garantie réelle. Et certains estiment ce pactole-là entre 12 et 18 milliards de dollars. C'est-à-dire pratiquement plus des 4/5 de l'équivalent du budget de la Tunisie.
Ça, c'est ce qui a été détourné par la présidence elle-même.
Non, la présidence, ce n'est que le sommet de l'iceberg.
Oui.
C'est tout un système mafieux qui a fait en sorte, en 23 années, de capturer l'État et de le mettre à sa disposition. Il faut se rappeler aussi que cette mafia-là,
oui.
Il y avait tout autour une myriade de soi-disant hommes d'affaires et de profiteurs et d'intermédiaires nationaux et internationaux, parce que, comme je vous le disais, c'est surtout à base de pots de vin sur les privatisations et sur le grand marché public, notamment dans le BTP,
oui.
Qui sont financés par des crédits supportés par le contribuable tunisien.
Marque Rolls-Royce, modèle Silver Spirit 2, essence V8, cylindré 6750 cm3. Kilométrage 17 000. Par exemple, ça vaut combien, monsieur? On ne sait pas. C'est cher ou pas? C'est des affaires pour... Non, mais pour nous, parce qu'on se dit on fait un reportage, mais si en plus on pouvait faire quelques affaires.
Ce qui est marrant, c'est que ils ont confisqué quand même le... Le gouvernement actuel a récupéré tout ça et s'est mis en vente ici.
200 voitures. Ben Ali, sa femme, la famille, des conseillers, des ex-ministres.
42 000 objets ont été saisis. Alors on espère que cette vente rapportera 10 millions d'euros pour le développement des régions. Certaines régions l'ont bien besoin. On était à Gafsa, on était à Redeyef. On peut dire que... C'était un petit peu inégalitaire, le régime de Ben Ali, la fortune totale dérobée par le clan Ben Ali et les siens, là, ça se compte en milliards d'euros.
Ça, c'est quoi?
Oh là 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 là, bon.
Ça, c'est des bibelots en exposition.
Et tout est à vendre.
D'ivoire, on n'avait pas vu d'ivoire.
Non. Montrez-nous ça. Il y a des bibelots, là c'est vraiment des chevaux dans toutes les poses possibles.
Ah ouais.
Oh là là, la porcelaine plaquée or 24 carats. Porcelaine chinoise, d'ivoire sculpté, du jade.
C'est étonnant, il n'y a pas un seul truc qui soit joli.
Concours de mauvais goût quoi.
Complètement. C'est impressionnant, en fait. Toute cette matière précieuse transformée en de si moches objets.
Et là, derrière, là, il y a une espèce de collier.
Hyper moche. On dirait des faux bijoux.
Ouais, là, c'est ça. On dirait du vert. Il y a du rose, du bleu, du jaune, du violet.
Sauf que c'est de l'or. Ah. Ça pèse quand même 223 grammes, la parure. Et c'est une marque, Bulgari.
Ouais, en fait, ça s'écrit sans V. C'est Bulgari, normalement. Mais là, ils ont rajouté un petit V. Alors, c'est pas mal. Bulgari.
Ah, tu t'y connais. Bulgari, donc. Bienvenue en Bulgari.
www.confiscation.tn ولي مزيد من الارشادات يمكن الاتصال برقم الهاتف 81 100 400.
Voilà, on retrouve maître Anouar El Bassi.
En France, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord des biens et des prises de participation que jusque-là, je ne sais pas où on en est, notre cher ministère de la Justice qui s'occupe de tout sauf de la justice. Oui. Et donc, en France, il y a des prises de participation et des biens. Il y a certaines tentatives, mais jusque-là, le travail n'est pas tellement organisé ni canalisé. Et ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts aussi. Le deuxième volet concernant la France et l'Union européenne, ça concerne aussi ce qui est connu comme dette odieuse.
Oui, qu'est-ce que vous appelez dette odieuse ?
Le concept de dette odieuse, ce sont des dettes des États, généralement des pays du tiers-monde, généralement sous le joug d'une dictature, qui s'endettent auprès des instances financières internationales, surtout auprès du FMI, de la Banque mondiale, et aussi des États, comme la France, l'Allemagne et tout. Et vous savez très bien que la France est le premier partenaire économique de la Tunisie.
Oui.
Et qui s'endettent pour, soi-disant, développer le pays, faire des projets de développement économique, de projets de travaux publics et tout. Et une grande partie de cet argent-là, il revient dans les banques occidentales par le biais des commissions sur les marchés publics. Et donc, si on a, par exemple, un marché public pour une autoroute estimée à 200 ou 300 milliards, il faut compter au moins 20 à 50 milliards de pots de vin. Mmh. Et les gouvernants étrangers ne peuvent pas nier que, au moins sur le plan moral, qu'ils n'étaient pas au courant. Juste après que Ben Ali soit déchu, vous vous rappelez très bien qu'en France, entre autres, même Sarkozy lui-même, il avait parlé à un certain moment que la France ferait tout pour que la Tunisie puisse récupérer le bien des Ben Ali en France.
Oui.
Cela suppose qu'ils étaient au courant dès le départ. Et cela suppose aussi que ces mêmes gouvernants savent très bien qu'un président d'une république ne peut pas amasser tout cet argent-là au bout d'une année ou deux, juste parce qu'il a un salaire de président de la République qui est de 30 000 dinars, c'est-à-dire actuellement l'équivalent de 15 000 ou 17 000 euros. Mmh. C'est ce qu'on appelle la dette odieuse. Donc moi, en tant que contribuable, je suis en train de payer un argent détourné,
oui,
qui n'a pas été dépensé dans le bien du pays,
oui,
au su et au vu des sphères financières.
C'est
vous
ça.
Avez en Europe, on parle aussi, même pour les pays d'Europe, de dette immorale, comme pour ce qui est de la Grèce.
Oui.
Vous savez très bien que l'Islande a aussi, à un moment donné, arrêté le paiement de ses dettes jusqu'à présent. L'Argentine, elle ne paye pas le service de la dette.
Voilà.
Or, malheureusement, ces mêmes pays, ces mêmes gouvernants et les bailleurs de fonds publics, à savoir les États et le FMI et la Banque mondiale, ils procèdent toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne change pas le modèle de développement économique qui laisse de côté une grande partie des régions déshéritées.
Ouais.
Et donc, nous sommes en train de semer encore les germes de l'instabilité. Donc, on ne tire pas les leçons, surtout du côté du Nord. Je parle toujours sur le plan des gouvernants, parce que les opinions publiques européennes, depuis des années, elles sont à fond avec les opinions publiques des pays du Sud, parce que tout le monde prend conscience que s'il n'y a pas de justice sociale dans ce pays-là, s'il n'y a pas une économie prospère, s'il n'y a pas une vraie démocratie, les pays du Nord ne pourront jamais être tranquilles. Ils auront toujours de l'immigration, ils auront toujours des problèmes.
Ok. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bon courage.
On en a. On en a.
Merci beaucoup, Anouar. Merci.
Et vous pensez que nous, il y a des affaires qu'on pourrait faire pour nous ?
Oui, les tapis, ils sont au moitié prix. Hein.
Ouais, mais c'est un peu encombrant, les tapis, pour ramener à Paris à la radio.
Un petit tapis, ça vous fera un petit...
Un souvenir.
Voilà, un petit souvenir de Ben Ali. Et à moitié prix, à moitié prix.
Ça me ferait chier d'avoir des trucs de ces gens-là, moi.
non ?
Sauf si c'est une super affaire.
Ah non, j'en veux pas. Merci à tous. Merci, c'était la Tunisie, le peuple veut, avec Guy Ventil, Anaël Verzeau. Et le reportage à Roy Mainbaison était signé Antoine Chao, à la traduction Selma Zridi, montage Franck Aderer. Merci à Maître Anouar Elbassi, Kamel Jandoubi, Khaled Amami. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter et sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. Et vous avez aussi la page Facebook qui vous attend. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Lucie Hakoun et Franck Aderer. Et Chloé Sanchez, préparé avec Grégory Salomonovitch à la technique Basile Bocquer et Martin Guénard. Marion Dupac, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Êtes-vous prêt à devenir le prochain millionnaire loto ?
Savez-vous compter en carats?
Faire la différence entre une bille et une perle?
Entre un 5 étoiles et un plateau TV?
Déclarer votre flamme entourée de majordomes?
Jeter 13 000 roses d'un hélicoptère?
Embrasser avec un tuba?
Non?
Alors suivez le coach!
Ce mercredi, jackpot loto de la Saint-Valentin de 7 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Inter et France 2 présentent Léonard Cohen.
Fais-moi danser.
Après trois concerts complets à l'Olympia en septembre dernier, c'est au tour de Bercy d'accueillir en concert à Paris, le mardi 18 juin, le légendaire chanteur Léonard Cohen. Retrouvez Léonard Cohen en concert le 18 juin à Bercy, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Et relisez La Croix en l'air de Prévert d'ici à demain, 15h, où on se retrouvera pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé ses consultations cet après-midi. Consultations d'urgence après le nouvel essai nucléaire nord-coréen ce matin qui a été condamné par l'ensemble de la communauté internationale. La direction de Goodyear a exposé aujourd'hui aux représentants du personnel les mesures d'accompagnement pour le plan social du site d'Amiens Nord. Il s'agit, selon le fabricant de pneus, de limiter au maximum les conséquences sociales pour les près de 1200 salariés concernés par la fermeture de l'usine. La direction affirme vouloir par exemple utiliser au mieux les possibilités de reclassement en interne. Une centaine de postes seront ainsi proposés. Autre mesure, le congé de reclassement en cas de licenciement économique qui permettra aux salariés de suivre une formation ou d'être accompagnés dans leur recherche d'emploi. Ce matin, plusieurs centaines de salariés de Goodyear, mais aussi de PSA, Renault et Sanofi, ont manifesté justement devant le siège de Goodyear à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine pour dénoncer les licenciements boursiers. Pas de dividendes au titre de l'année 2012 pour les actionnaires de Faurecia. L'équipementier automobile filiale de PSA a confirmé aujourd'hui un résultat net en baisse de 62% par rapport à 2011, mais quand même 142 millions d'euros. Il souhaite préserver sa trésorerie et poursuivre son plan de restructuration en Europe. C'est une première dans l'histoire de Ouest-France. Le premier quotidien français a présenté un résultat d'exploitation négatif pour 2012. Aujourd'hui, moins 5 millions d'euros, la faute à des recettes publicitaires en baisse. La diffusion, elle, reste stable. La part des femmes dans les conseils d'administration des sociétés a progressé d'au moins 3% en un an. Selon une étude publiée aujourd'hui, le seuil de 20% sera dépassé en 2014, mais celui de 40% sera difficile à atteindre en 2017. Dans l'affaire Bettencourt, suite à la confrontation hier de Patrice Demestre, Pascal Wilhelm et Stéphane Courby, le juge Gentil a requalifié les charges retenues contre l'avocat en escroquerie. L'affaire porte sur un investissement de 145 millions d'euros de Liliane Bettencourt dans la société de Stéphane Courby. Jusqu'ici, Pascal Wilhelm était poursuivi pour notamment abus de confiance. De son côté, Stéphane Courby a toujours le statut de témoin assisté dans cette affaire, mais il n'est pas exclu qu'il soit reconvoqué par la justice. Dans le volet financier de l'affaire Karachi, cette fois on l'apprend aujourd'hui, le domicile de François Léotard dans le Var a été à nouveau perquisitionné fin janvier. Pas content, l'ancien ministre de la Défense a invectivé les policiers. 5 d'entre eux ont porté plainte pour outrage. Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête préliminaire. François Léotard était ministre de la Défense dans le gouvernement Balladur entre 93 et 95, au moment où furent signés en fait les contrats d'armement soupçonnés d'avoir donné lieu à des rétro-commissions ayant pu financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. La famille d'un jeune homme de 19 ans tué en 2008 lance un appel aujourd'hui au ministère de la Justice. Elle dit être inquiète d'un possible non-lieu dans cette affaire. Le jeune homme a été tué à un barrage de gendarmes. Le parquet en fait vient de faire appel de l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction qui, eux, ont requis l'homicide involontaire contre le gendarme auteur du tir qui a tué ce jeune homme dans l'Oise. Vous écoutez France Inter, 16h04.
On va tous y passer. Frédéric Lopez.
Sur France Inter, au studio 106, 34 millions de personnes sont infectées par le virus du sida dans le monde. 35 millions de petits vénards sont porteurs de la syphilis. 2 millions de Français ont de l'herpès génital. Et demain, c'est la fête des amoureux. On est dans une mer de Loire, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter.
Demain, nous recevons Nolwenn Leroy.
Nolwenn Leroy.
Leroy.
Frédéric Lopez, on va tous y passer. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 11h.
À demain.
France Inter.
La voix est libre.
Et on va passer par la musique classique avec vous, Frédéric Le Déon. Bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillé, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Il a commencé le piano tardivement et puis il y a quelques pièces qui l'ont poussé à prendre cette décision. Des œuvres qu'il nous livre ici dans ce disque publié par Deutsche Grammophon. Son nom c'est Ingolf Wunder. Wunder, ben, c'est la merveille tout simplement. Et en allemand. Et voilà, des propositions. Ça n'est pas une suite d'intégrales. Ça n'est pas tout ce qu'il faut savoir sur Bach ou sur Vivaldi. Non, non, il y a de tout. Du Scarlatti, du Mozart, du Chopin, du Kochalski, du Liszt, Debussy, etc., etc. Moi je vous propose tout de suite la fameuse étude en ré dièse mineur de Scriabine, dite pathétique. Thank you. Étude en ré dièse mineur dite pathétique de Scriabine, interprétée par Ingolf Wunder. Et il dit lui-même, Ingolf, dans le livret de son disque, que Moskowski a écrit quelque chose qui touche au génie avec ses étincelles. Moskowski, c'était un Allemand d'origine polonaise, grand virtuose, considéré comme un virtuose de salon. Mais enfin, là, on peut dire qu'il aurait mis volontiers le feu à ses salons avec cette virtuosité absolument imparable.